France Musique. Musique et moi.
Jean-Paul Cluzel.
Elsa Boublil.
Le sourire est la première politesse du chrétien.
Green Sleeves, c'est sur cette air traditionnelle interprétée au luth par Mildred Clary, luthiste, mais également productrice de radio qui a longtemps œuvré sur France Musique, que nous vous accueillons Jean-Paul Cluzel, haut fonctionnaire français, que l'on a bien connu chez nous puisque vous avez été le président de Radio France de 2004 à 2009. Ensuite, jusqu'en 2016, vous avez présidé l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais. Mais vous avez également été directeur de l'Opéra de Paris de 92 à 1995 et président de RFI. Aujourd'hui, vous êtes président de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles. Bonjour Jean-Paul Cluzel.
Bonjour Elsa et bonjour aux auditeurs.
J'ai eu envie de vous faire entendre Mildred Clary pour commencer parce que j'ai oublié de préciser à nos auditeurs que vous êtes aussi, surtout aussi, je ne sais pas dans quel ordre le dire, mais un fidèle auditeur du service public et en particulier de France Musique de très longue date. Je crois que vous avez connu Mildred Clary, on va pouvoir en parler, mais vous avez vraiment fait votre formation musicale.
Oui, mon éducation musicale a été faite par France Musique. Je pense que j'ai dû commencer à écouter France Musique vers 1959, donc ça fait 63 ans que j'écoute
France Musique. Qui ne s'appelait pas France Musique ?
Qui s'appelait France 4 Haute Fidélité. Oui, parce que ça a été la première des stations de radio en France à utiliser la nouvelle technologie de la modulation de fréquence. Maintenant, on va vers le DAB+.
Oui, mais donc, effectivement, auditeur de longue date. Et ce qui nous fait plaisir, c'est que vous poursuivez, vous continuez de nous écouter.
Oui, j'écoute généralement au moins 2 heures France Musique par jour. Alors, pour être tout à fait honnête, je me réveille avec France Culture. Et à 9h10, je passe sur France Musique.
Bon, les auditeurs de Radio France et le personnel de Radio France est heureux de savoir que notre président continue de nous écouter. C'est bien. Cette phrase, le sourire est la première des politesses du chrétien, Jean-Paul Cluzel, c'est une phrase qui vous tient à cœur et qui date...
De mon enfance ou de mon adolescence. Mes parents avaient une maison de campagne à Bois-le-Roi, entre Fontainebleau et Melun. Il y avait un prêtre qui avait été résistant, un homme très remarquable, et qui nous a fait remarquer que la première chose, ou même souvent la seule chose que les autres voient de nous, c'est notre visage. Donc il était important de leur faire bonne figure, comme on dit. Et ça reste très actuel. On parle aujourd'hui de de bienveillance hein, dans l'attitude, mais ça se relie aussi à la politesse, à la civilité. Ce sont des attitudes qui, je crois, aident beaucoup au vivre ensemble que nous cherchons peut-être désespérément aujourd'hui.
Vous l'avez appliqué vous-même dans votre vie ?
J'ai essayé, vous pouvez demander au personnel de Radio France, mais je crois, oui, j'ai essayé d'être souriant, oui, j'essaye toujours.
Vous êtes l'invité de Musique et Moi ce matin jusqu'à 12h30 sur France Musique, donc l'occasion de découvrir votre chemin à travers vos goûts musicaux, Jean-Paul Cluzel.
Thank you.
La fantaisie en la mineure, opus 95 de Camille Saint-Saëns, interprétée par Lily Laskin, qui est un souvenir d'enfance très précis dans la ville dans laquelle vous avez grandi, au Kremlin-Bicêtre.
Oui, exactement. J'avais essayé d'apprendre le violon avec un insuccès total, parce que j'ai pas d'oreille, donc je jouais faux, je m'en rendais pas compte. Mais le professeur de violon était une femme très remarquable, comme presque tous les professeurs de cette époque-là, qui s'attachaient vraiment à leurs élèves. Ils s'attachent aussi aujourd'hui, mais là, je pense qu'on a du mal, quand on a 30 ans, à imaginer l'investissement que les professeurs faisaient sur des élèves dont ils pensaient qu'ils avaient quelque chose pour l'avenir. Et donc, cette professeure avait signalé à ma mère qu'il y avait un concert à la mairie du Kremlin-Bicêtre, juste après le périphérique, aujourd'hui en Val-de-Marne. Il y avait donc Lily Laskin. Je ne connaissais évidemment pas le nom Liniski, ni ma mère. Elle jouait de la harpe. Je pense que c'était un concert de harpe seule.
Donc, vous ne saviez pas quel interprète c'était non plus.
Non, mais si vous voulez, je faisais confiance. Je crois qu'une bonne partie du secret de ma vie, c'était que j'ai fait confiance aux gens quand je sentais qu'ils pourraient m'apporter beaucoup de choses. Cette professeure de violon pouvait m'apporter des choses, je les avais bien senties. Elle me recommandait d'aller voir Lily Laskin. J'allais voir Lily Laskin et je me souviens des... On l'entend d'ailleurs dans
cette fantaisie,
il y a quelque chose d'assez céleste, c'est le mot qui me vient à l'esprit.
La harpe, ça vous a donné envie de changer de vocation instrumentale ou pas du tout?
Non, mon père m'a offert un petit magnétophone, un des premiers. Et il m'enregistrait en train de jouer et là, comme je n'entendais plus le son du violon par l'oreille interne mais par l'oreille externe, je me suis aperçu que je jouais abominablement mal.
Donc vous avez arrêté ?
J'ai arrêté, ce qui a beaucoup fait plaisir à papa.
Il ne vous l'a pas offert pour ça quand même,
si,
papa. Ah si, c'est vrai ?
Si, j'en suis certain.
À quel milieu était le vôtre, Jean-Paul Cluzel, au Kremlin-Bicêtre ?
Écoutez, du point de vue matériel, ce n'était pas mauvais. Les affaires de papa qui étaient quincaillées ne marchaient pas trop mal, mais l'environnement était plus qu'austère, il était pauvre, c'est-à-dire que les toilettes étaient sur le palier, je me souviens qu'il y avait du givre l'hiver dans la fenêtre de ma chambre. Enfin, là encore une fois, on a du mal à imaginer ce que c'est que la France de la banlieue des années 50.
Est-ce qu'on écoutait de la musique chez vous ?
Alors, Dieu merci, sur Radio Luxembourg, l'ancêtre d'RTL, il y avait des programmes de musique classique et donc je crois qu'on entendait de temps en temps de la musique classique. Et puis il y avait la publicité pour Kléber Colomb qui devait être quelque chose de tiré d'un air de Moussorgski. Voilà.
En tout cas, c'est comme ça que vous avez commencé à découvrir, j'imagine, déguster la musique classique.
Oui, je pense que RTL avant France Musique. Mais enfin, c'était simplement une petite...
Dans le lointain.
Oui, dans le lointain.
L'Orchestre Philharmonique de Vienne interprète cette danse hongroise numéro 4 de Brahms, qui est une danse qui fait partie des danses, je crois, Jean-Paul Cluzel, que vous avez découvertes en vous abonnant. C'était alors la Guilde Internationale du Disque, c'était un abonnement.
Oui, c'est quelque chose. En préparant cette émission, j'ai regardé, il y a un article sur Wikipédia. Donc c'est quelque chose qui a été créé en 1948. Et on recevait, si on prenait l'abonnement, on recevait quasiment un disque par mois. C'était de la danse, de la vente forcée. Bon.
C'est un système commercial.
C'est un système commercial, mais qui avait sa petite réputation. Et comme j'avais une soif de tout apprendre, parce que inconsciemment, je sentais que je voulais sortir du Kremlin-Bicêtre. Je voulais sortir...
Petit.
Oh oui, très vite. Mais parce que ma mère en particulier était inquiète de toutes les fins de mois. Vous savez, quand vous êtes commerçant, il y a le chiffre d'affaires et est-ce qu'on aura de quoi payer les traites à la fin du mois? Donc, je pense qu'un des premiers souvenirs que j'ai de ma mère, c'est quand elle m'emmenait à la banque, elle demandait le relevé, la situation du compte. Donc, j'ai compris qu'il fallait que je sorte de là. Et tout ce qu'il fallait pour apprendre, dès que je découvrais un champ à apprendre, j'essayais d'apprendre. Oui. Donc, la musique est arrivée comme ça, même si la vérité, c'est comme j'avais aucune des clés pour comprendre la musique classique, je laissais la plupart des disques sur l'étagère, à l'exception, je m'en souviens très bien, des danses hongroises de Brahms, oui.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont provoqué en vous, Jean-Paul Cluzel?
C'est parce que, contrairement à d'autres musiques que l'on m'a donné à écouter assez jeune, par exemple, à la symphonie pastorale de Beethoven, c'est complexe, la symphonie pastorale de Beethoven, tandis que les danses hongroises de Brahms, il y a un rythme. Finalement, c'est assez de la musique zigane. C'est la musique zigane arrangée avec un très grand art, mais ça reste un fond de musique zigane.
Oui, de musique populaire.
Une musique populaire, voilà. Donc c'était un bon pont, je suppose, entre ce que j'entendais autour de moi et la musique classique.
Et vous me disiez en préparant cette émission que, par exemple, Beethoven, la pastorale, vous saviez que c'était sans doute de la bonne musique.
Alors, je savais que ça devait être de la bonne musique parce que ça m'avait été offert par une amie de ma mère qui a joué un rôle important dans ma vie. Et si elle me l'avait offert, je savais que ça m'était utile.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Jean-Paul Cluzel, donc, cette nécessité de s'extraire de son milieu passait donc aussi par la musique, j'imagine, par beaucoup d'autres choses, être bon à l'école, quoi d'autre encore, le sport peut-être?
Non, alors là, non, mais le sport n'était pas du tout mis en avant à cette époque-là. Non, ça passait essentiellement par le français, l'histoire, la littérature, le théâtre. On nous emmenait le jeudi après-midi, parce que c'était le jeudi où on ne travaillait pas, au Théâtre National Populaire, avec Jean Villard. Et donc, on écoutait les grands classiques. Mais j'étais assez éloigné de la musique, mais j'avais compris qu'à un moment ou à un autre, il faudrait que j'aime la musique.
C'est comme ça que vous vous êtes mis à écouter France Musique.
C'est comme ça que je me suis mis à écouter France Musique, aussi pour la technologie, parce que j'aimais bien ce qui était nouveau.
Ah, c'est vrai. Et c'est ainsi que vous avez découvert, je crois, Respighi.
Thank you.
Carlo Rizzi dirige l'Orchestre Philharmonique de Londres dans cette interprétation des Pins de la Villa Borghese de Ottorino Respighi. Donc un poème symphonique où on a vraiment le sentiment, Jean-Paul Cluzel, d'une escapade en ville. En tout cas, il y a quelque chose de très réussi sur le plan sonore. On y est, on est à Rome.
Ah oui, on est tout à fait à Rome. Ottorino Respighi, je l'ai découvert en écoutant le Matin des musiciens, qui était une émission de France Musique, là aussi, dont on n'a pas idée aujourd'hui, parce qu'elle durait 2 heures sur le même thème pendant du lundi au vendredi. Donc, on avait 10 heures sur Ottorino Respighi. C'est ainsi qu'entre autres choses, j'ai découvert les Pins de Rome. J'ai aussi découvert, c'était la première faille que j'ai eue dans mon amour des voix, dans l'art lyrique, le petit doute que j'ai eu. Je crois que Respighi estimait que, alors qu'on a fait des instruments aussi merveilleux que le violon, la harpe, le piano, etc., la voix humaine, qui est quelque chose qui peut être imparfait, eh bien, ne devrait pas être utilisée pour cet art qui devait être parfait, qu'est la musique. Et puis, il y a une époque où j'allais beaucoup à Rome, j'avais des amis dans la grande banlieue de Rome, j'avais une moto, je faisais les routes, tout ça, et un jour on m'a dit tu devrais aller voir les Ours, qui est un grand ensemble construit par Mussolini pour l'exposition universelle qui aurait dû se tenir à Rome en 40, qui évidemment s'est pas tenu. Il en est resté des monuments d'une architecture très belle, tout aussi autoritaire que l'est le palais de Chaillot. Mais plus original et un peu plus inspiré, l'Italie fasciste a été à mon avis meilleure que la Troisième République finissante, évidemment bien meilleure que Hitler ou Staline. C'est assez beau.
Et voilà. Du coup, cette œuvre vous est revenue en tête en visitant votre moto.
Oui, parce que il se trouve que un grand cube qui est splendide avec des centaines d'ouvertures, qui doit s'appeler le Palais de la Civilisation Italienne, est entouré d'un parc qui a dû être planté pour les besoins de l'exposition universelle. Et ces pins existent encore et sont un peu isolés. Alors, bien sûr, Respighi, il a dû écrire les Pins de Rome vers 1920. Il
24, oui.
24. Il n'a pas dû écrire les Pins de Léour. Mais il y avait une espèce de fidélité.
C'est intéressant, Jean-Paul Cluzel, quand on vous écoute. Donc, vous le disiez tout à l'heure, la musique, le théâtre, la réussite à l'école pour se sortir du Kremlin Bicêtre. Et en vous écoutant, on se dit que peut-être que la musique est avant tout une curiosité intellectuelle. À vous écouter, on dirait que finalement, vous découvrez la musique par ce qu'elle vous apprend.
Oui, alors je voudrais te rectifier, je ne voulais pas me sortir du Kremlin-Bicêtre, je voulais me sortir de ma situation sociale.
D'accord.
C'est pas tout à fait la même chose, surtout qu'à l'époque, l'assignation à résidence, comme on dit aujourd'hui, je crois, était moins nette. Mais non, je ne voulais pas être fils de petit commerçant. Enfin, j'étais fils de petit commerçant, mais je ne voulais pas que ça se prolonge en moi. La musique, oui, pendant longtemps, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre, comme la littérature. J'ai dû presque tout apprendre, Elsa Boublil. Donc, avant que ce qu'on a appris ne devienne un plaisir, il faut pas mal de temps. Et dans mon cas, la vérité était qu'il a fallu que j'attende l'âge de ma retraite pour avoir la disponibilité d'esprit suffisante pour commencer à comprendre véritablement ce que peut apporter la musique en termes de plaisir.
En tout cas, l'avidité était là.
Oui.
Thank you.
Imaginaire de Dalila, Mon cœur s'ouvre à ta voix de Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns, interprété par Elina Garanza avec l'orchestre du théâtre communal de Bologne sous la direction de Yves Abel. Alors, cette air de Dalila est un air qui nous renvoie à un moment de votre vie, Jean-Paul Cluzel, un moment précis de votre jeunesse, je crois, de ce cheminement petit à petit vers notre monde, celui de la musique classique.
C'est un de mes plus beaux souvenirs musicaux. J'ai eu la chance, grâce à un ami, Jean Javani, il nous écoute peut-être, de connaître Gabriel Dussurgey, celui qui avait fondé le Festival d'Aix-en-Provence. Et donc, on était un petit groupe de jeunes gens, assez ignorants, qui avions la chance de pouvoir accompagner Gabriel aux représentations. Les prix étaient différents d'aujourd'hui. Encore une fois, tout était différent. Hein. Nous sommes à la fin des années 70. Et Jesse Norman avait donné Hippolyte et Aricide de Rameau. Et bien, elle donne une toute autre dimension à Rameau, hein, et très différent évidemment de ce qu'on est habitué à entendre aujourd'hui. Personnellement, je continue bien aimer ces manières non historiquement informées d'interpréter les œuvres baroques. Et ensuite, Jesse Norman donne un récital avec piano, toujours dans la cour de l'archevêché. Et là, elle chante un air d'opéra français qui plaît à toute la petite bande de copains. Donc oui, on devait avoir entre 28 et 32 ans. Et tout le monde se tourne vers moi et dit « Jean-Paul, il faudrait que tu oses demander à Gabriel ce qu'est cet air, on ne sait pas du tout. » Je prends mon courage à deux mains, je demande à Gabriel et Gabriel me répond « Jean-Paul, je crois bien qu'il s'agit de Samson et Dalila. » De Saint-Saëns. Évidemment, j'ai dû beaucoup rougir, mais ça montrait la manière dont Gabriel Dussurgey nous faisait comprendre la musique. De me traiter d'imbécile, je crois bien qu'il s'agit, évidemment.
Beaucoup de délicatesse, en tout cas.
Oui, c'était
d'élégance.
D'élégance, oui. C'est en rapport avec cette attitude de sourire à la vie, de politesse.
Et ça, Jean-Paul Cluzel, ça autorise du coup à poursuivre avec gourmandise. C'est-à-dire que d'accueillir une ignorance avec le sourire, j'imagine que ça vous autorise à
bien évidemment
ne pas vous sentir en imposture.
Bien évidemment, si on vous dit que vous êtes imbécile, hein, tandis que une semaine avec Gabriel autour de sa piscine, ben il nous apprenait ce qu'il estimait être le bon goût en musical ou le bon goût en peinture. Et il se trouve que 40 ans après, je crois qu'il avait raison. Mais il a fait ça avec une élégance incroyable.
Waltraudmeier interprète avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin La mort d'Isolde, de Tristan et Isolde de Wagner, sous la direction de Laurine Mazel. Alors ça, c'est un souvenir aussi important, personnel, mais professionnel également, parce que on n'a pas évoqué le cheminement qui a été le vôtre, mais vous avez été inspecteur des finances pendant longtemps, et puis finalement, vous êtes arrivé dans la musique assez rapidement.
Pas si rapidement. J'ai dû être nommé à l'Opéra de Paris. J'avais déjà 45 ans.
Ah, d'accord.
Pas si, voilà. Tout à fait par hasard, parce que il y avait eu une crise à l'Opéra de Paris.
Dans les années 90.
À l'occasion d'un accident, de l'effondrement d'un décor qui avait fait, hélas, un mort et plusieurs blessés. Et donc, l'équipe de direction avait démissionné. C'était sous Pierre Berger. Pierre Berger est resté. Et donc, à l'Élysée. Déjà, l'Élysée, vous voyez, régissait beaucoup de choses. On dit maintenant que Emmanuel Macron s'occupe de tout. Je crois que c'était un peu aussi le cas sous François Mitterrand. Et il y a eu une réunion de cabinet où Bernard Lartercher, qui s'occupait des affaires de culture à cette époque pour François Mitterrand, a dit « on cherche un directeur général pour l'Opéra de Paris ». Et il se trouve qu'un ami qui travaillait au cabinet du président de la République, Guillaume Manzo, qui a fait ensuite une très belle carrière de banquier, en entendant ça, s'est dit « tiens, ça pourrait intéresser Jean-Paul ». Et je crois qu'il pensait que j'étais intéressé pour deux raisons. L'une qui était bonne, qui savait que j'aimais la musique, que je m'ennuyais pas un peu, mais enfin que j'avais fait le tour du poste que j'occupais. Et deuxièmement, il est bien connu que tous les homosexuels sont des hommes de culture. Et comme j'étais très ouvert sur ma sexualité, Guillaume a pensé que un inspecteur des finances qui aime la culture et qui est homosexuel fera forcément un bon directeur à l'Opéra de Paris.
Un peu de cliché là-dedans, mais finalement c'est...
Ça m'a bien aidé. Ça m'a bien aidé. Vous voyez, il n'y a pas que l'inspection des finances. Et c'était même pas une mafia, parce que Guillaume Azot est un heureux père de famille marié qui, je crois, n'a jamais été tenté par les messieurs.
Et donc, on en revient à ce souvenir donc professionnel mais aussi personnel, puisque la mort d'Isolde, enfin Tristan Isolde, oui. J'imagine que vous l'avez connu lorsque vous dirigez l'opéra.
Non, parce que quand je dirigeais, vous savez, l'opéra Bastille venait d'ouvrir, on avait arrêté les opéras Garnier et nous n'avons fait qu'un seul Wagner qui était le vaisseau fantôme. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'avec Gérard Mortier a fait cette production formidable, merveilleuse, avec en particulier des vidéos de Bill Viola.
Et c'est Peter Sellars.
Et Peter Sellars dans la mise en scène. Et donc, j'ai découvert Bill Viola. Je me souviens, le premier programme de saison qu'avait fait Gérard Mortier, il y avait des photos que j'avais trouvées. Je ne comprenais pas la raison. Je me disais, pourquoi on a un programme qui n'a aucun rapport avec ça? Et ensuite, quand j'ai vu Tristan et Isolde, là, j'ai compris avec la vidéo. Et j'étais si enthousiasmé que j'ai revu une fois cette production. Et puis, j'ai rencontré Nicolas Drouin.
Qui est votre mari.
Qui est mon mari, qui est le directeur général de l'Orchestre de Chambre de Paris. Donc, vous voyez, on peut parler musique entre nous. Et on venait de se rencontrer. Il était inconcevable qu'on ne voit pas cette production.
Dans le cadre de votre histoire d'amour, c'était pour vous évident que ce n'était pas possible de poursuivre cette relation sans avoir vu Tristan
Isolde.
Oui,
parce que, alors certes, c'est une histoire d'amour qui ne finit pas très bien, mais en même temps, il y a, je crois, dans justement les derniers vers, il y a se dissoudre dans le chaos infini du monde. Qu'est-ce que l'on peut rêver de mieux pour un couple qu'il se désolve et se retrouve dans le chaos infini du monde ?
Thank you. dicesti all'onor di primo abate Lorenzin l'usuriere altro proponi di lui più degno il prode che dai nostri mari cacciava l'African pirata e all'inore vessino prese l'antica rinomanza all'entera intesi e il pre Sansa onore vendo a quel prezzo e popolar
Le favellasti
prigioniera geme in quella matone
Maria negarla le voce chi potria misera
assenti
Paolo
Solti quieto parte ai perigli alla possanza
sia
in vita ed in morte
sia
sapresse
Per poco ancor mistero ne circondi.
Sì,
il corsaro all'alto scranno verrà
i fieschi
taceranno.
Le prologue de Simon Boccanegra de Verdi, interprété par l'Orchestre symphonique de Vienne sous la direction de Massimo Zanetti, avec notamment et entre autres Thomas Hampson qui joue Simon. Alors c'est un opéra éminemment politique où les conflits de pouvoir se mêlent aux tempêtes de la vie familiale. Jean-Paul Cluzel, je ne crois pas que ce soit relié à ça, mais plutôt à votre profession, au moment où vous avez exercé... comme directeur.
Oui, le moment le plus compliqué, franchement tout à fait désagréable, était quand il y a eu un changement de gouvernement. J'avais Pierre Berger comme président. Il y a eu des élections législatives. Il y a eu la cohabitation. Est arrivé comme ministre de la Culture Jacques Toubon. Jacques Toubon avait convaincu, qu'il fallait que Pierre Berger parte. Et qu'il fallait faire venir Hugal. Je crois que le choix d'Hugal était bon, parce qu'il fallait un chef qui connaisse parfaitement la maison pour ramener ensemble tous les éléments et construire quelque chose pour Bastille. Mais Hugal pensait à juste titre que les pouvoirs que Pierre Berger avait donnés à Tchung étaient incompatibles avec justement la cohérence qu'il voulait apporter à cette maison forcément très difficile. Donc, on m'a demandé, il fallait, en tant que directeur de l'Opéra de Paris, que je rompe le contrat avec Tchung, que j'avais moi-même signé avec lui. Vous voyez, c'était très simple. Ça s'est évidemment mal passé. En plus, Pierre Berger, qui est ensuite devenu un ami, qui avait été un ami, qui est redevenu un ami ensuite. Évidemment, c'est une personne qui était un petit peu violente. Donc, Simon Boccanegra, ça a été le dernier opéra qui a été donné à Tchung de diriger.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Mais justement, Jean-Paul Cluzel, vous avez dirigé donc l'opéra, mais également Radio France. Radio France qui comporte deux orchestres éminents, l'Orchestre National de France et l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Là aussi, la musique a été très importante.
Et un chœur,
et une maîtrise.
J'ai eu le bonheur de pouvoir créer le deuxième site de la maîtrise à Bondy, qui était un projet auquel je tenais beaucoup.
Oui, pour essayer de faire venir d'autres...
Oui, parce que Bondy, ça doit être en Seine-Saint-Denis,
oui.
Et avec Sophie Janin, qui était directrice de la maîtrise, mais on a essayé de faire quelque chose de nouveau. Oui.
Et ça...
dans des territoires, comme on dit aujourd'hui, des zones dans lesquelles la plupart des enfants n'ont pas forcément un papa et une maman qui connaissent la musique classique.
Se trouver dans cette position de réfléchir à la musique, c'est quelque chose qui vous a plu, Jean-Paul Cluzel ?
Oui, en même temps, il faut être un peu détaché, parce que il peut être tentant d'imposer ses goûts en matière musicale. Or, Friedrich Schlesinger, qui a été le patron de France Inter avant d'être celui de toutes les antennes, jusqu'à une période assez récente, m'avait dit « Il faut aimer la radio que l'on fait et non faire la radio que l'on aime ». Il avait raison. Donc, je n'ai jamais imposé mes goûts musicaux, ni au directeur de France Musique, ni bien évidemment aux directeurs musicaux du National et du Philhar.
Thank you.
un extrait de l'offrande musicale de Jean-Sébastien Bach, interprété par Musica Antica de Cologne sous la direction de Reinhard Goebel. Alors, c'est une œuvre dont vous aviez envie de parler, Jean-Paul Cluzel, à plusieurs titres. D'abord parce que vous avez beaucoup de plaisir à écouter Bach, et l'offrande musicale en particulier.
Oui, j'aime Bach comme beaucoup de monde, et comme je crois que je vous l'ai dit, Elsa Boublil, j'ai scrupule à parler de Bach, parce qu'il se trouve que Philippe Lançon, vous savez, ce journaliste qui a survécu
à l'attentat de
Charlie Hebdo, mais en ayant sa mâchoire pulvérisée, donc qui a subi des souffrances terribles pour être reconstitué dans le sens strict du terme, Philippe Lançon parle dans son livre Le Lambeau admirablement de la manière dont Bach l'est. Donc, respect par rapport à ça, et donc un peu de honte.
De honte, oui,
parce que dire qu'un compositeur vous aide, quand il aide des personnes dans une situation...
En reconstruction,
voilà, bon, ça signifie pas grand-chose. Vous savez, les gens qui se plaignent de tout, qui se plaignent d'une grippe, et qui parfois parlent de ça alors qu'ils sont en face de quelqu'un qui a un cancer. Voilà, c'est... Il faut un peu de pudeur. Donc, j'ai un peu de honte. Mais voilà, oui, il est certain que Bach est pour beaucoup de personnes un créateur absolument majeur et une des personnes essentielles de toute la musique. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, plus particulièrement pour l'offrande musicale, c'est que on croit savoir, c'est parfois discuté, mais que cette œuvre a été créée à l'occasion d'une visite de Bach au château de Sanssouci, avec le grand Frédéric II de Prusse, et que ce serait Frédéric II qui lui donnait à chaque fois les premières notes du thème qu'il allait développer. D'ailleurs, quand on visite Sanssouci, ce que je faisais par hasard très récemment, bah, on vous montre la flûte du roi. Et pensez, si vous voulez, un souverain qui est capable de donner des notes de musique à partir desquelles on fait cette musique une
oui, d'improviser,
belle, hein.
Après,
voilà, d'improviser, voilà. Mais de donner le bon thème musical. Voilà. On est très très loin de Donald Trump.
Bien, on a entendu ce que vous vouliez dire, Jean-Paul Cluzel. Pour en revenir à Jean-Sébastien Bach, simplement, oui, c'est difficile quand on a lu Le Lambeau de pouvoir exprimer ce qu'il éveille en soi, mais on est peut-être pas obligé de passer par la douleur. Est-ce que Bach, au contraire...
Ce que dit Philippe Lançon et que à peu près tout le monde ressent, c'est qu'évidemment, la musique de Bach, étant parfaitement chromatique et parfaitement naturelle, elle fait écho à tous les canons de beauté qui nous sont intérieurs.
Thank you.
L'Allegro moderato du Sextuor à cordes en ré mineur opus 70, Souvenir de Florence de Tchaïkovski, interprété par le quatuor Emerson. Alors voilà un autre compositeur qui compte pour vous, Jean-Paul Cluzel. Alors on sent en plus dans ce mouvement à la fois le lyrisme italien mais l'influence fortement germanique. Tchaïkovski, c'est une capacité à aller dans beaucoup, beaucoup de registres, c'est ça qui vous plaît?
Je pense, oui, c'est, je vais dire que c'est un génie universel. En tout cas, il me semble que c'est un génie européen et je trouve qu'on n'a pas tendance à lui donner une place suffisante dans le panthéon de la musique. Tout simplement parce qu'il a écrit toute une série de tubes. Mais c'est pas parce qu'on a écrit des tubes que la musique est mauvaise. La musique du Lac des Cygnes, il est tout de même difficile de faire mieux pour. Et on voit bien le plaisir qu'ont les danseurs. Donc, presque tout de Tchaïkovski. Et ça, je l'ai découvert récemment dans l'émission d'Isaac Hirschfeld. Je ne l'avais jamais entendu. Et ça a accru mon admiration pour cet homme capable de faire le Lac des Cygnes et ça. Voilà.
Oui, vous parliez de la notion de tube, Jean-Paul Cluzel, mais alors justement, vous qui avez appris la musique par vous-même, le tube, on a tendance à le mépriser, mais un tube est un tube précisément parce que c'est de la bonne musique, non ?
Oui, je pense que le tube, alors on peut garder le tube pour le tube. Vous savez, c'est comme dans la musique de variété, il y a un single qu'on aime et puis on n'écoute pas tout ce que le chanteur ou le groupe fait. Ben, le tube, c'est la même chose, on s'arrête au tube ou ça vous donne envie d'aller un petit peu plus loin.
Aimez-vous Brahms ?
J'aime beaucoup Brahms, exactement.
Thank you.
Le troisième mouvement de la symphonie numéro 3 en fa majeur opus 90 de Johannes Brahms, interprété par le Staatskapelle de Berlin sous la direction de Daniel Barenboim. Je vous ai posé la question, Jean-Paul Cluzel, à savoir si vous aimiez Brahms, puisqu'évidemment, cette œuvre de Brahms est interprétée dans le film d'Anatole Litvak, Aimez-vous Brahms, éponyme du roman de François Sagan.
De François Sagan, exactement. C'est un film qui date de 1961 avec deux remarquables acteurs, Ingrid Bergman et Anthony Perkins. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce film, donc je devais avoir 14 ans, j'ai vu Anthony Perkins et je me suis aperçu que j'étais beaucoup plus séduit par Anthony Perkins que par Ingrid Bergman. Et c'était une des premières fois où je me suis interrogé ce qui allait être pendant très très longtemps, et même peut-être un tout petit peu encore aujourd'hui, une des questions de mon existence, quand vous n'êtes pas exactement fait dans votre plus fort intérieur comme les autres. Alors, je ne dirais pas que la musique a adouci ça, mais pour moi, j'ai en même temps eu... non pas la révélation de Brahms, puisque j'avais déjà aimé ses Dans son droit, donc j'aimais les harmoniques de Brahms, mais ce film a révélé oui, ce qui allait être forcément une part très très importante de ma vie, assumer et en faire quelque chose pour moi et ensuite pour les autres, pour ne pas taire cela. Quand j'étais à Radio France, j'ai dit que j'étais homosexuel. Je pense que beaucoup de gens m'ont dit, mais merci, vous nous avez un petit peu aidé. Donc j'ai toujours fait ça.
Vous étiez un tout petit peu en amont de ce qui allait se passer quelques temps plus tard, pas longtemps après, mais vous avez fait ce qu'on appelle un coming out.
Oui, j'ai commencé ça avec mon premier patron, M. François Poncet. Et dès que j'étais à la tête d'une entreprise, enfin responsable d'une entreprise, je ne me suis jamais caché parce que je me suis souvenu tout ce que j'avais vécu quand j'étais petit, plus jeune, ou dans des positions moins favorables que quand on est dans la direction d'une entreprise. Et je me suis dit que je voulais aider ceux qui n'avaient pas eu ma chance. Et j'ai vu très souvent dans les transports en commun, y compris des maires qui sont venus me voir, me reconnaissant aux yeux, Monsieur Cluzel, merci, vous avez aidé mon fils.
Ça voilà. A pu être une souffrance avant de pouvoir le dire, Jean-Paul Cluzel?
Pas vraiment une souffrance. C'était, vous savez, j'ai le coutume de dire, c'est comme la planète Mars. Vous savez que ça existe, mais vous n'allez pas y aller. Donc pour moi, c'était si éloigné de mon univers que, oui, c'était un sujet d'interrogation. Mais j'étais moqué par mes camarades qui, eux, avaient bien compris ce que j'étais. Donc effectivement, voilà. Mais je mettais de ça sous le côté, voilà, t'es le premier de la classe, donc comme t'es le premier de la classe, on se moque de toi, on te taquine.
Et à quel moment avez-vous pu l'assumer ?
Eh bien, quand j'étais reçu à l'ENA, et surtout quand je suis entré à l'inspection des finances, corps dont on dit parfois du mal, mais qui était formidable, là, tous les jeunes inspecteurs des finances et les autres, voilà, ont trouvé que j'étais tout à fait normal. Ça m'a bien aidé. Je suis très reconnaissant.
Et on va se laisser sur ces belles paroles, Jean-Paul Cluzel. Merci pour tout ce que vous nous avez livré ce matin, ce que vous avez fait. Et puis, cette découverte musicale, on va se quitter sur une de vos dernières découvertes musicales. C'est Michel Lambert et Marc Moyon. Oui. C'est la voix
Alors, les deux choses. D'abord, je connaissais les leçons ténèbres de Couperin. Et j'ai découvert, grâce à la voix très particulière de Moyon, et qui est très adapté, évidemment, à ce style de musique.
Merci encore d'être venu, et puis à une prochaine fois, Jean-Paul Cluzel.
C'est moi qui vous remercie, Elsa Boublil.
Oh.
La très belle voix de Marc Moyon pour terminer cette émission en compagnie de Jean-Paul Cluzel, qui était donc l'invité de Musique et Moi ce matin. Merci à Guillaume Leduc qui était à la prise de son, Sophie Pichon à la réalisation, attachée de production Marie Ferdinand. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant cette émission sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et Moi. Je vous souhaite une très belle semaine à l'écoute de France Musique et à dimanche prochain, 11h.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.